OK, on va continuer notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. Nous en sommes déjà à notre deuxième leçon. On va terminer ce qu'on avait débuté la semaine dernière. Et dans la leçon 1, nous avions regardé la première discipline, qui est la discipline d'écouter la parole de Dieu. Donc, on va réviser rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. On se doit d'écouter la parole de Dieu avec précaution. Ça, c'était le premier choix qu'on avait regardé. Parce que, il y a une raison, parce qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Comme on le disait la semaine dernière, des fois, on ouvre la parole, ou on entend la parole, on sait que c'est la parole de Dieu, parce qu'on se le dit souvent entre nous et on la lit. Mais des fois, est-ce qu'on est vraiment dans une attitude de la recevoir comme étant Dieu lui-même qui nous parle au moment présent où on la lit? Réellement prendre conscience, Dieu me parle, il y a quelque chose à me dire dans le texte que je suis en train de lire. Ou Dieu me parle par un serviteur qui veut me dire quelque chose au moment où vous entendez la parole de Dieu. C'est ça que quand ça dit dans 1 Thessaloniciens 2:13, il dit « La parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Alors, quelque part, c'est important de se réaliser. On le dit, on n'arrête pas de le dire, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, mais est-ce qu'on a l'attitude du cœur de la recevoir comme Dieu lui-même qui nous parle à nous personnellement? Il y a une différence là entre les deux. Aussi parce qu'on avait vu la deuxième raison, parce que nous avons tendance à nous séduire nous-mêmes. Jacques lui rappelle dans Jacques 1, verset 22-25, qu'on ne peut pas juste écouter la parole, autrement dit, avec l'attitude que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. La parole nous avertit qu'il faut la mettre en pratique. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste écouter. Il faut la mettre en pratique, sinon ça devient une condamnation. Alors, c'était important de se souvenir de ça. Et troisième raison, c'est parce qu'elle peut sauver nos âmes. Notre destinée éternelle, bien entendu, en dépend. Et quatrièmement, parce qu'elle nous sanctifie. Et que la sanctification est essentielle. La parole nous avertit aussi que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et quel moyen le Seigneur a utilisé pour nous sanctifier et continue d'utiliser pour nous sanctifier, c'est la parole. Alors, la quatrième raison, c'était ça. On était rendu au deuxième point. Nous devons écouter la parole de Dieu avec précaution. La première idée qu'il faut regarder, c'est que Dieu nous prépare. En agitant parfois notre esprit. On regarde des exemples où Dieu agit sur l'esprit de quelqu'un. En Esther, par exemple, chapitre 6, les versets 1 à 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? » « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour? » Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? » Et on se souvient de l'histoire, le roi, il dit, « Ceux que lui que l'on veut honorer, on prend le cheval du roi, on le monte dessus avec les habits royaux, et on le promène à travers la ville en disant, « C'est ainsi qu'on honore celui que le roi veut honorer. » Mais Aman, lui, Dieu permet, il prépare l'esprit du roi en permettant qu'il ne dorme pas cette nuit-là. Et quand tu dors pas, il dit, amène donc les livres de l'histoire du pays. Puis on lui lit cette histoire-là comme de quoi que Mardochée avait déjà averti le roi que deux eunuques avaient voulu s'en prendre à sa vie. Puis là, il s'informe. Et là, on voit que tout commence. Dieu, le livre d'Esther, c'est un livre très intéressant parce qu'on dit que c'est le seul livre où Dieu n'est pas présent dans le sens de le mot Dieu n'est pas là. Mais on sent la présence de Dieu à travers toute l'histoire et on voit que Dieu intervient. Et ici, un des moyens qui a intervenu, c'est en permettant qu'il ne dorme pas la nuit. Et que tout ça fait en sorte que Aman, là, il décide de se venger. On sait l'histoire, le reste de l'histoire. Là. Et on voit la présence et l'intervention de Dieu dans la vie des siens. Même si parfois, dans ce livre-là, on dit que c'est un des livres où on ne parle pas beaucoup de la présence de Dieu. Alors, l'Éternel peut agir sur notre esprit pour nous préparer à recevoir sa parole. C'est ce que je dis parfois le dimanche. On se devrait, tous et chacun, toute la semaine, à tous les jours, quand on lit notre parole et quand on a notre culte avec le Seigneur, de lui demander de préparer notre cœur à la réception de sa parole. Moi, je trouve que ça fait la différence parce que quand tu demandes ça à Dieu, ça c'est le genre de prière que le Seigneur va toujours dire oui. Si tu lui demandes, Seigneur, prépare mon cœur, pour que quand je vais entendre ta parole, soit le mercredi soir ou soit le dimanche matin, les leçons qui sont inscrites dans le message, que ça fasse un effet sur mon cœur, que ça change quelque chose dans ma vie. Et si, selon vous autres, si on demande ça tous les jours à Dieu, pensez-vous que Dieu va répondre?
Ben oui.
Oui. Comment ça se fait qu'on le fait peut-être pas tout le temps? On l'oublie, on le fait pas. Et à quelque part, ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit rien quand on entend la parole. C'est pour ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on reçoit moins qu'on pourrait recevoir. Alors, un autre exemple, c'est par une parole, le Seigneur, on se prépare par une parole dite par une autre personne. 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 9. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie. Il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélé. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Alors, on continue l'histoire à partir du verset 11. Alors, l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai annoncé contre sa maison. Contre sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui racontait tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » C'est ses fils, là. Ses deux fils faisaient des choses abominables. Et lui, comme père, il aurait fallu qu'il intervienne avec autorité sur ses deux enfants. Et il ne le faisait pas. Et le Seigneur, non seulement il lui reproche à Élie, qui était un prophète, il lui reproche, mais il lui dit, à cause de ton manque d'autorité envers tes deux enfants, il va prendre leur vie. Et Samuel, c'est la révélation qu'il a eue de Dieu, et il s'en va le dire. Et Élie, la manière qu'il réagit, on voit que c'est un homme, parce qu'il dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Et on vient de dire que l'Éternel va tuer tes deux fils parce que tu as manqué d'autorité. C'est assez vert comme message. Alors ici, l'Éternel se sert de son serviteur Samuel pour annoncer une décision concernant la mort prochaine des deux fils d'Élie. De la même manière, Dieu peut se servir de la parole d'une personne pour nous parler. Oui, Dieu se parle à quelqu'un d'autre pour te parler. Mais dans notre vie, à nous aussi, le Seigneur peut permettre que quelqu'un, un chrétien, nous dise une parole, que ça se rende à nous et que ça touche notre cœur. Le Seigneur se sert souvent de cette chose-là. Et le Seigneur nous parle aussi par des bénédictions inhabituelles, soit dans notre foyer, soit dans notre travail, soit dans notre santé, soit dans notre croissance, soit dans nos finances. Psaume 75, versets 5 à 7. « N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Intéressant, hein? C'est le Dieu qui est le maître de soit de nous élever, ou soit de nous abaisser. Et on le voit, j'ai mentionné les principaux secteurs de vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé, dans ta croissance, dans tes finances. Il élève l'un, abaisse l'autre. Je l'ai vu dans ma propre vie, des gens qui étaient socialement, j'ai connu quelqu'un même qui était maire, il faisait de l'argent comme de l'eau. Et à un moment donné, il y a un scandale à la municipalité parce qu'il a donné des contrats à des firmes d'ingénierie. Ça s'est su, ça a fait un scandale. Il a tout perdu ce qu'il avait. Il s'est ramassé sur le bien-être social, il a perdu son auto. Imaginez-vous quelqu'un à qui ça arrive, un genre de choses comme ça. Alors quand la Bible dit « il élève l'un et abaisse l'autre », ça s'est vu dans la vie des milliardaires ou des millionnaires que Dieu a élevé, puis à un moment donné, Dieu juge et il les fait tomber à plat, comme on dit. Et ça s'est vu souvent, dans le temps de la crise en 29, il y a eu plusieurs personnes, des riches, qui se jetaient par les fenêtres, qui n'étaient pas capables de stander, qui n'étaient pas capables d'accepter que Dieu leur enlevait leur fortune, ils se suicidaient. Alors Dieu, quand on dit, c'est des versets qui parlent fort, parce que c'est Dieu qui est le maître de nous élever ou de nous abaisser. Et des fois, quand il nous abaisse, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Surtout quand on est des élus. Dieu peut jouer avec notre statut, avec nos finances, avec toutes sortes de choses. Et il faut penser qu'il est au contrôle. Et c'est lui qui permet que les choses arrivent. Donc, l'Éternel contrôle nos circonstances. Et celles-ci, comme chrétiens, on le sait, on l'a répété, et on le répète quasiment ad vitam aeternam, que tout ce qui nous arrive, dans les moindres détails. Ça prend du temps avant de saisir ça, avant d'accepter ça, avant de recevoir dans la vie que Dieu, ce qu'on reçoit aujourd'hui, la circonstance, ce qui nous fait vivre, c'est lui qui l'envoie. C'est très bon à savoir, mais d'un autre côté, c'est difficile à accepter aussi. Parce qu'on est porté à se dire, je ne suis pas sûr que j'ai besoin là. Ben, si Dieu permet que ça t'arrive là, c'est parce que c'est ça que tu as besoin là. Nous, on a de la misère avec ça. Mais quand on grandit dans la foi, ce verset-là, là, si on le méditait d'aplomb, on vivrait encore des choses difficiles, tristes, douloureuses, mais on ne les vivrait pas avec la même attitude. On pourrait même garder notre sérénité à l'intérieur de ce qu'on vit, parce qu'on se souvient que ça vient de Dieu et on le reçoit comme venant de la main de Dieu. Quand on reçoit quelque chose comme venant de la main de Dieu, on ne le reçoit pas avec la même attitude que les païens. Des fois aussi, le Seigneur se sert d'une prière non exaucée pour nous faire avancer. On va prendre l'exemple ici de David. On sait que David, il avait eu un enfant avec Bathsheba. Et à un moment donné, l'enfant est mort. Et là, la manière de David de réagir, ça a été de jeûner, ça a été de prier, puis de s'implorer l'Éternel de sauver la vie de l'enfant. Et on sait l'histoire, l'Éternel n'a pas permis. Mais alors, il se sert du non-exaucement pour lui montrer qu'il avait péché gravement. Il ne perd pas son salut, mais il perd sa joie. Il perd bien des choses. Alors, on relit un petit peu l'histoire, 2 Samuel, chapitre 12, versets 16 à 23. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, « L'enfant est mort, il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Voyez-vous, on parlait l'autre jour, je pense que c'est samedi, qu'on parlait du verset dont les gens disaient que les enfants étaient allés au ciel après leur décès. Bien, c'est justement ce verset-là qu'ils utilisent pour dire, parce que David, il parle de son fils qui est mort. Puis il dit, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Alors, il y en a qui ont sauté vite aux conclusions en disant que tous les bébés qui meurent en bas âge sont sauvés. J'avoue que c'est un verset qui peut peut-être vouloir dire ça, mais qui ne dit pas nécessairement ça non plus. C'est un verset qui est « j'irai vers lui ». Alors, tu dis « j'irai vers lui », ça veut dire qu'il sera au ciel, mais lui ne reviendra pas vers moi. Alors, je vous dis ça comme ça en passant, parce que je vous dis que c'est le verset qu'on utilise. Alors, on a ici une illustration que certaines de nos prières ne sont pas exaucées à cause de notre péché. Notre cœur est ainsi préparé pour recevoir une décision de l'Éternel et une leçon qu'il veut nous enseigner. Un autre moyen, c'est par la déception. La majorité des espions, qui étaient 10 sur 12, découragèrent le peuple d'entrer dans la terre promise parce qu'ils avaient vu les géants qu'ils devaient combattre. Ils manquèrent de foi en l'Éternel. Seule l'intercession de Moïse les sauva d'une destruction totale. On lit dans Nombre 14, versets 1 à 9. « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte, que nous ne sommes pas morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne valait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur face en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi eux, ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Voyez-vous, il y en a deux. Ils ont envoyé des espions, ils sont arrivés dans le pays, qu'est-ce qu'ils ont vu? Des géants. Ils ont dit, jamais on sera capable de se battre contre ces gars-là. On est fait à l'os, ils sont trop forts pour nous autres, on n'est pas capable. En retournant en Égypte, Moïse, t'es en train de nous emmener dans une affaire, ça n'a pas de sens. Il voulait se retourner en Égypte. Et Moïse, là, il y a une chance que Dieu permet que Moïse intercède pour eux. Sinon, ils auraient tout exterminé. Des fois aussi, le Seigneur se sert des circonstances ordinaires et extraordinaires. Moïse, Exode chapitre 3, verset 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Ça devait être un spectacle assez spectaculaire, que de dire. Tu vois quelque chose qui est en feu, ça brûle constant. Ça se consume, puis ça ne brûle pas en même temps. Aussi, des fois, le Seigneur, ça sert de l'échec dans nos vies. Josué, chapitre 7, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Voyez-vous, quand un chrétien il a trop confiance en lui, puis qu'il ne met pas la confiance en Dieu, « Oh, c'est rien qu'un petit village, envoyons pas toute la gang là, on perdons pas notre temps avec ça, là. » Dieu permet qu'un petit village puisse vous battre, pour vous humilier, de ne pas vous mettre en prière devant Dieu, que même devant les petites choses, il faut que tu consultes le Seigneur. Des fois, l'échec fait partie de nos vies pour nous montrer que n'aie pas trop confiance en toi, même dans les petites choses, confie-toi à l'Éternel. Puis on sait qu'après, ils ont changé d'idée, ils ont prié, et là, ils ont fini par les vaincre. Des fois aussi, l'Éternel nous parle par les difficultés financières. Juges, chapitre 6, versets 1 à 6. Quel beau livre, le livre de Juges, pour nous montrer que quand on est désobéissant envers le Seigneur utilise toutes sortes de moyens pour juger son peuple. Et c'est douloureux. Le livre des juges, quand on le lit, on s'aperçoit que le peuple d'Israël souffrait, mais c'était souvent parce que c'était un cycle interminable d'idolâtrie. Idolâtrie, repentance, idolâtrie, repentance. C'était un cercle vicieux, ça tournait comme ça tout le temps. Alors, Juges 6, verset 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. C'est long, 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissait en vivre en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ça, c'est le livre de Juges. Ils sont dans une désobéissance. Dieu permet un jugement. Et là, ils sont malheureux. Ils crient à l'Éternel. L'Éternel a pitié d'eux autres. Il leur envoie de l'aide. Et ça recommence. Le cycle... tout le livre des Juges fonctionne dans ce cycle-là. Alors, ici, on voit vraiment des difficultés financières. Dieu permet que son peuple, malgré qu'il semait, il récoltait, mais les Madians finissaient toujours par tout ramasser. Il n'y avait plus rien. Dieu les avait réduits à la servitude financière. Il n'y avait plus rien qui marchait financièrement dans le pays. L'économie du pays était sur le dos, comme on dit. Alors... des fois, le Seigneur peut permettre aussi dans nos vies à nous, comme chrétiens, quand on est trop dans la désobéissance, peut permettre aussi qu'on vive des choses similaires. Donc, il nous parle par la parole, mais souvent, c'est la parole et des circonstances aussi. Des fois, il va se servir aussi de la tragédie, de la maladie et de l'affliction. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. On se souvient, c'était quoi, Ézéchias? 15 ans. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Et vous, dans le temps, souvent le roi avait une influence énorme sur le peuple. Quand le roi était une personne qui était pieuse, le peuple était béni. Et ici, on a l'exemple d'Ézéchias qui manque de foi. Dieu lui avait dit, prépare-toi parce que je vais t'enlever la vie. Et là, Ézéchias, ben voyons donc, Seigneur, j'aurai pas la chance. Puis là, il se met à broyer devant le Seigneur. Le Seigneur lui accorde un bienfait, 15 ans de vie de plus, mais ces 15 ans, il les a très mal utilisés. Et on le voit ici, là. Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Quand le Seigneur dit à quelqu'un, prépare-toi, parce que je viens te chercher, tu vas mourir bientôt. Il aurait dû dire, amen, Seigneur, viens me chercher. Il voulait absolument vivre. Mais à la fin de compte, il l'a pas vu comme faux. Jérémie, chapitre 29, verset 10 à 12. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans se seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole et en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sous vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Nos circonstances difficiles servent très souvent à nous rapprocher de Dieu. Dieu les permet et le but, c'est justement de nous rapprocher de Dieu. Alors, on va arrêter là aujourd'hui. On terminera la semaine prochaine. C'est tout.
Moi, je peux jeûner un mois, pas de problème.
Je suis un peu. Ah, ok. Non, c'est ça. Mais, à dimanche, bon, restant de semaine. Ben, merci.